Exactement. Alors, ces couches-là sont de plus en plus importantes, non seulement démographiquement, économiquement, culturellement, idéologiquement, je dirais, mais elles sont aussi de plus en plus présentes dans les centres des agglomérations. Au prix de quoi ? Au prix d'une expulsion de plus en plus systématique des couches dites non solvables, défavorisées. On ne dit pas pauvres, hein. C'est un mot qui écorche un peu. On a toujours des euphémismes.
Exclu.
Ah ben, c'est bien exclu, vous savez comme moi que c'est un mot qui, à la différence de opprimer renvoie oppresseur, de exploiter renvoie exploiteur, hein, dominer renvoie dominant, il n'y a pas d'excluer dans le vocabulaire français. On parle de l'exclusion et des exclus, on dirait que c'est une espèce de processus, j'allais dire physique, pour ne pas
une
dire
fatalité.
Métaphysique, une fatalité qui permet finalement des considérations moralisantes chères à la sociologie d'Alain Touraine et de ses suppôts. Et alors, pour en venir aux exclus, entre guillemets, ils sont véritablement évincés des centres des agglomérations, envoyés de plus en plus loin. C'est-à-dire, c'est même plus l'approche banlieue, l'ex-banlieue rouge. Maintenant, quand on expulse les gens, quand on les fait partir, étant donné la spéculation immobilière et foncière d'une part, et les politiques systématiques dites de réhabilitation ou de rénovation, on les envoie à 10, 15, en région parisienne, c'est 25, 30, 40 kilomètres.
Au fond, c'est parce qu'on n'a plus besoin d'eux. Ce que je veux dire par là, c'est que la construction des bâtiments, des zones de HLM et ainsi de suite, se faisait souvent en lisière des zones industrielles, parce qu'on avait besoin d'une main d'œuvre à proximité des usines. Là, dans la mesure où les usines sont rejetées elles aussi plus loin, c'est une main d'œuvre qui devient inutile, qu'on peut exclure plus loin de la ville.
Il faut bien savoir qu'il y a une partie, on peut dire, des classes dominées, dont le capitalisme n'a plus besoin. Sauf sous forme peut-être d'armée de réserve, comme disait le barbu, pas islamiste, hein, je parle de Marx. Il y a des gens qui ne feront plus jamais partie de l'armée d'active, qui sont considérés comme, dirait Tony Blair, inemployables. Et donc ces gens-là, on ne sait pas quoi en faire. On n'est pas dans un pays de dictature du Sud, on ne peut pas les exterminer, on ne peut pas les laisser mourir de faim, mais si possible, à défaut de les exterminer ou les faire disparaître, on va les rendre invisibles. Et le meilleur moyen de les rendre invisibles, c'est de les envoyer à 30, 40, 50 kilomètres dans de l'habitat bas de gamme, pas des grands ensembles surtout, parce que qui dit concentration de pauvres dit problème à gérer, on appelle ça un quartier difficile. Un quartier difficile, c'est pas un quartier où les gens ont des difficultés dues à la précarisation, à la paupérisation, à la marginalisation. Un quartier difficile, c'est un quartier où il est difficile de maintenir l'ordre en raison des troubles causés par la progéniture de ces couches-là. Mais c'est ça la logique, et celle-là, la reconquête des quartiers populaires, voire, pour ce qui est de Paris, de certaines autres villes, de l'approche banlieue par, non pas la bourgeoisie, mais cette petite bourgeoisie intellectuelle, les ingénieurs, quatre techniciens et surtout enseignants, chercheurs, graphistes, designers, architectes, paysagistes. Ces gens-là, c'est pour ça que je l'appelle la petite bourgeoisie intellectuelle, parce qu'elle fait fructifier son capital intellectuel. Elle n'est pas une classe dirigeante, elle est une classe intermédiaire, une classe médiane. Quand on cite les architectes les plus connus, les gens nouvelles, Portes-en-Parc, etc., qui étaient tous des gauchistes, entre nous soit dit, quand ils étaient étudiants en architecture, maoïstes et autres, et qui aujourd'hui sont au service du prince avec un grand P, qu'il s'agisse d'un directeur de société ou de le maire d'une grande ville. On travaille pour Georges Frêche, on fait la philharmonique à Luxembourg, capitale du blanchiment de fric en Europe. On peut faire toute la liste des gens pour qui travaillent ces architectes. Hermès, le siège social, le nouveau siège social de Bouygues à Issy-les-Moulineaux, et tous ces grands noms de l'architecture, c'est traditionnel, hein, ça remonte à la Renaissance. On travaille pour le prince. Mais aujourd'hui, ces gens-là se donnent des airs démocratiques et de gauche.
Justement, vous parlez de politique. Le cœur des villes se vide de ses classes populaires,
oui.
Est habité par la bourgeoisie intellectuelle. Et au fond, vous vous dites dans votre article que ça induit aussi une transformation de la gauche. C'est-à-dire qu'une gauche qui, dans les villes, s'appuyait sur les classes populaires, maintenant, les partis de gauche s'appuient sur cette bourgeoisie intellectuelle.
Les collègues géographes, les jeunes géographes, ils ont parlé de la gentrification des partis de gauche, notamment du Parti socialiste et des Verts. La gentrification étant un néologisme savant importé lui aussi des États-Unis et d'Angleterre, la gentrification, ou est-ce qu'on pourrait dire en termes, ça n'existe pas, l'empetit-bourgeoisement, hein, des quartiers, et c'est l'empetit-bourgeoisement des partis. C'est-à-dire ça renvoie la nature de classe de ce qu'est le Parti socialiste. Hein. Et effectivement, ces partis-là, on ne peut pas dire qu'ils trahissent, ils sont devenus les partis qui représentent justement cette petite bourgeoisie intellectuelle. On s'étonnera après que les couches populaires ne votent plus, mais où est-ce qu'elles vont se reconnaître, hein ? Certainement pas dans ces partis de gauche qui sont petits bourgeoisiers eux aussi.